avoir les mains un peu prises, 30 secondes.
Vous entendez ? Je suis sûr que vous allez mémoriser le message. Parce que j'avais noté que vous ne reteniez pas ce que nous disions quand nous prêchions. Par contre, là, vous allez mémoriser. Vous allez vous en souvenir. Et c'est profondément biblique. Amen ! C'est le geste prophétique. Vous savez, Jérémie et les prophètes utilisent parfois des symboles extrêmement forts pour toucher les cœurs. Et là, le prophète, il utilise ses lames pour parler à votre cœur. Laissez-vous toucher par le bruit, par le son, par les lames qui se frottent. C'est le prophète qui s'exprime là. C'est bon ? Vous avez retenu ? Vous allez vous en souvenir. L'homme s'affine au contact de son prochain. Alors c'est vrai que là, pour ce qui me concerne, l'homme s'affine au contact de Sabine. C'est pas tout à fait vrai, parce que quand je me remémore ce que je fus quand j'étais jeune, et je fus jeune avant d'être plus vieux, j'étais comme un fil de fer. Vous avez vu que depuis, je me suis affiné. Mais je me suis affiné au contact de Sabine parce que mon âme, proche de mon épouse, a certainement affiné et transformé mon caractère, transformé l'être que je suis. Au contact de mon prochain, je me suis affiné. Au contact de l'Église, nous nous affinons les uns et les autres. Et nous devenons efficaces quand nous affinons les uns et les autres. Amen. Et j'aime à dire que nous ne sommes d'aucune efficacité si nous nous isolons les uns des autres. En couple, vous vous êtes affinés. Bon, vous faites de la bonne cuisine, je peux vous le témoigner, mais sur le plan du caractère, votre personnalité s'est affinée. Amen. C'est vrai que ça crée des étincelles quand on utilise deux lames qui se frottent entre elles. Mais puisse cette étincelle engendrer le feu. Et au fond, nous avons besoin des uns et des autres pour nous laisser transformer mutuellement. J'ai passé un formidable culte ce jeudi, comme un culte que nous avons vécu ce jeudi chez les Mondoco. Et je fus ravi de passer un temps de prière avec toute la famille. Et cette rencontre-là nous enrichit mutuellement. Amen. Et ce fut une source de joie, finalement, de parfois de vivre des moments où nous sommes différents des uns et des autres. Mais parce que nous sommes différents, nous mutualisons nos richesses communes. Comment je découvrirai la richesse d'Olivier si je n'ai pas eu ce temps de rencontre que nous avons eu et qui a été utile pour nous ? Nous avons échangé des points de vue qui peuvent montrer des convergences comme des différences, mais quelle richesse de nous rencontrer, quelle richesse de nous apporter mutuellement, et puis de découvrir ta cuisine. Amen, amen. Nous avons besoin des uns et des autres. En fait, j'ai aiguisé le fer contre le fer, le métal contre le métal, et je me suis appuyé sur un verset des Écritures, Proverbe 27, 17. Et nous pouvons peut-être lire ensemble, vous verrez qu'il y a différentes versions qui existent. Elles ne sont pas toutes justes. Et je me suis plongé dans l'hébreu pour comprendre quel était le sens véritable de ce verset des Écritures, afin qu'il n'y ait pas de contresens. Il y a une seule Bible qui donne un contresens, c'est la Seconde 21, qui donne un contresens total. Proverbe 27, 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et l'on dit amen. Merci de m'aiguiser. Amen. Merci de m'aiguiser. C'est pas en restant isolé que vous allez vous transformer. C'est en vous frottant. D'accord ? Au bon sens du terme. C'est en confrontant. C'est en échangeant. C'est en partageant que je transforme mon cœur et l'état de mon cœur. Ne sois sûr de rien, nous avons besoin de nous rencontrer les uns et les autres. Il existe donc de multiples traductions et versions, et nous avons regardé avec Sabine les traductions et les versions, et je lui ai exposé, je suis allé aussi dans la Chouraki, la Bible Chouraki, qui me semble être la plus proche du texte, parce que c'est de l'hébreu. D'accord, c'est le français retranscrit littéralement. Alors, une autre version donne « le fer s'aiguise, aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain ». Ça me paraît aussi juste. Ou bien « le fer s'aiguise par le fer, l'homme s'affine en face de son prochain, le fer contre le fer évoque finalement la confrontation qui s'aiguise et peut nous conduire donc à une progression mutuelle de nos personnalités. C'est en échangeant que nous grandissons, mutuellement. Amen. Donc cela parle à la fois à ton cœur, mais cela parle aussi à la dimension de nos deux assemblées et de nos deux églises. Dans le couple, on sait très bien que nous sommes différents. Et moi, je veux vous témoigner ici combien Sabine m'est différente. Amen. Et je dis amen, parce qu'elle est une véritable richesse. Et au fond, nous nous sommes attirés parce que nous sommes très différents. Je plaide pour la différence. Je ne plaide pas pour l'uniformité. Je plaide pour nos différences parce que ce sont nos différences qui nous enrichissent. Mais si nous restons, je dirais, isolés, nous ne grandissons pas, nous ne croissons pas. Amen. Le couteau, il est inefficace, il est inutile, il n'est pas tranchant, il ne remplit pas sa fonction s'il n'est pas aiguisé. Cela reste et cela demeure un couteau, mais un couteau inefficace. Nous sommes d'accord. Or, en l'aiguisant, donc en nous aiguisant, en le frottant, nous créons, je dirais, une efficacité. C'est un message prophétique. Cela concerne les deux assemblées, puisque nous sommes réunis ici, fin de ce mois, c'est pour parler à vos cœurs, à nos cœurs. Nous avons besoin de vous. Est-ce que vous avez besoin de nous ? Oui, j'ai besoin de toi, Laurence. Est-ce que tu as besoin d'Éric ? Amen. Vous comprenez ? C'est un message prophétique. Quand allons-nous rester et demeurer isolés les uns des autres ? L'Église, à quoi sert-elle si elle n'a pas vocation de travailler dans sa complémentarité et dans son unité ? L'Église ne sert à rien si elle n'est pas dans la complémentarité et l'unité. L'Église n'a d'efficacité que si elle est dans la mutualisation. Si elle choisit de travailler à l'unité du cœur. Voulons-nous être une puissance de feu ? Voulons-nous mettre l'étincelle dans le cœur des uns et des autres ? Alors choisissons de nous rencontrer les uns et les autres. Amen ? Ouah ! Ça démarre fort. Double portée, ce matin. Lorsque nous découvrons le verset de ce proverbe 27-17, il y a aussi cette traduction que j'aime. Tout comme le fer aiguise le fer, un homme ranime le visage de son ami. Un homme ranime le visage de son ami. D'accord ? Dans notre confrontation, nous nous ranimons. On redonne de la vie quand on est amoureux. Amen. On se redonne de la vie et de l'espérance. ça ranime la flamme. Moi, j'ai besoin que notre flamme, en tant qu'assemblée, soit ranimée. De ranimer la flamme des deux assemblées afin qu'elles ne dorment plus. C'est fini le temps du sommeil, il faut se réveiller. Et se réveiller, c'est se rencontrer à nouveau pour redécouvrir le premier amour. Le premier amour qui nous donne l'envie, voilà, de partager la foi, de partager l'espérance, de partager la bonne nouvelle qui est en nous. Le couple a besoin de se renouveler quotidiennement. Quotidiennement. Et je veux vous témoigner que je n'ai pas fini de découvrir ma bien-aimée. D'accord ? Moi, j'ai pris de l'embonpoint, mais moi, je n'ai pas fait le tour de Sabine. C'est le paradoxe. J'aime beaucoup les paradoxes. Je n'ai pas fait le tour de mon épouse. Bon, moi, avec Eric, peut-être qu'elle a fait le tour de tous ses défauts et de toutes ses qualités. Mais nous continuons à nous découvrir l'un et l'autre. Dans une église, nous avons besoin en tant que corps de nous découvrir les uns et les autres, de découvrir les dons que nous avons. Si je n'ai pas les dons et les talents de l'église, imagine, l'église Vie Nouvelle ne sert à rien. Et vice-versa. Nous avons besoin de nous rencontrer, d'aiguiser le fer, afin de donner l'étincelle. Dieu nous a donné un lieu. Est-ce que vous connaissez tous l'adresse de ce lieu ? C'est la rue des Rémouleurs. Ce qui veut dire qu'autrefois, il y avait un corps de métier ici. Probablement des métalliers et des artisans qui travaillaient finalement sur des ustensiles métalliques. La rue des Rémouleurs. Rémouler, ça veut dire tout simplement affûter les ustensiles, affûter les outils. Aujourd'hui, dans cette rue, la rue des Rémouleurs, il y a la présence d'une église. Une église qui proclame que la parole de Dieu est efficace comme une épée à double tranchant. Nous sommes ici donc les artisans de Dieu. Donc nous sommes devenus les artisans de Dieu. D'ailleurs, la parole parle d'artisans. Artisans de paix. Artisans dotés d'une épée à double tranchant. Efficace. Mais efficace que si nous acceptons de déguiser le fer, le métal. Vous me suivez ? La vocation est donc d'affûter notre vie en Christ. Qui nous affûte et qui nous aiguise ? Qui aiguise notre personnalité ? C'est notre rencontre et notre relation avec Jésus qui affûte la personne que nous sommes. Et Dieu sait si pour ma part, il y a besoin de tailler. De tailler. Parce que le cuir est un peu dur parfois, l'oreille un peu sourde. Et on a besoin de se laisser transformer radicalement par la parole de Dieu qui vient affûter notre vie. C'est la parole qui transforme le cœur, qui transforme notre vie, qui change notre état d'âme, qui change notre état d'esprit. Donc vous connaissez l'adresse de l'assemblée, rue des Rémouleurs. C'est Joy qui nous avait évoqué ici à plusieurs reprises le métier et la fonction de ce rémouleur qui affûte les outils, les ustensiles. L'affûtage va rendre l'outil, l'ustensile plus coupant, plus tranchant. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'enfant, je pense que Michel doit avoir ce souvenir d'enfant. Lorsque tu commandais des steaks de viande, d'accord, chez le boucher de ton village, je me souviens de cette époque, eh bien, ce dernier prenait un plaisir extraordinaire à affûter devant moi. D'accord ? Donc c'était assez impressionnant quand on a un enfant de 8 ans, quand on va chercher le boucher, et puis alors là, il prend un malin plaisir à affûter ses outils, et ça crée des étincelles, et je dis, bon là. puis à couper le morceau de viande, hein, dans le gros morceau qui était suspendu sur le perroquet. Et il affûtait ses outils afin de me livrer les steaks de viande. C'est impressionnant. Et ça m'a marqué. Mais il fallait qu'il fasse cela, qu'il affûte ses couteaux pour pouvoir bien trancher. Et il le renouvelait, l'opération, systématiquement. Alors pour moi, c'était un plaisir d'aller le voir. Je n'ai pas eu la vocation de devenir boucher, mais artisan dans la parole de Dieu. Merci, mon petit frère. À nouveau, je fais une apparition. Dans le même esprit, vous l'avez compris, le Seigneur compare sa parole à une épée tranchante. Nous pouvons lire dans Hébreux 4, 1, Hébreux chapitre 4, verset 1. Donc prenez, je ne lis pas totalement le verset, mais vous lisez ce verset avec moi. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, c'est dans Éphésiens 6, 17 et dans Hébreux 4, 1. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que nous sommes donc prêts à nous laisser exposer à la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes prêts, je dirais, à rencontrer finalement la lame de Dieu qui, en quelque sorte, veut bien séparer les sentiments et les pensées du cœur, car le Seigneur veut, en quelque sorte, sonder notre âme. Et peut-être séparer ce qui n'est pas pur selon lui. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à prendre ce rendez-vous en tête à tête avec le Seigneur pour accepter cette dimension de transformation de notre âme et de notre cœur pour nous conformer à son appel? Oui ? La parole de Dieu ne sert strictement à rien si nous n'acceptons pas qu'elle fasse son effet en nous, qu'elle transforme radicalement notre vie. Or, le rendez-vous que nous prenons ce matin, c'est bien d'écouter sa parole. Sa parole est vivante, ce n'est pas une lettre morte. Ça serait une lettre morte si effectivement nous l'écoutons en regardant l'heure dans la rue des Rémouleurs, ou lorsque nous regardons les promeneurs de la rue des Rémouleurs. Et en effet, tout d'un coup, nous prenons le temps de sommeiller, de dormir, de nous laisser distraire. Mais Dieu nous dit que l'heure, c'est de l'écouter. C'est d'écouter sa parole et de nous laisser exposer. Car le Seigneur n'a pas le désir de culpabiliser notre être, mais de nous conduire à sa grâce, de nous conduire à son pardon. Le Seigneur ne vient pas condamner le pécheur, il dit au pécheur, reviens à moi. Reviens à moi, car je veux parler à ton cœur. Car je veux toucher ton cœur, car je veux toucher ton être tout entier et t'amener à la dimension de cette plénitude, de la grâce en moi. Je pense à notre Seigneur pour qui les clous ont été tranchants au bois de la croix. Et le Seigneur, lui, a accepté d'exposer sa vie au monde pour acheter notre cœur. Et nous interpelle par sa parole afin que nous nous laissions sonder dans nos reins et nos cœurs, pour que nous acceptions que nos sentiments soient jugés en lui, que nos pensées et les pensées de notre âme soient jugées en lui. Au bois de la croix, il a été transpercé. Au bois de la croix, il a pris notre péché pour racheter notre cœur. Non pas pour condamner notre cœur, mais pour nous racheter. Le monde nous condamne, mais Dieu est venu racheter. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus pour le monde. Le Seigneur est venu nous racheter. La parole de Dieu que nous délivrons est-elle devenue inefficace? Non. Elle n'est efficace que si nous acceptons de confronter notre existence à la lettre vivante. Alors laissons-nous imprimer par cette lettre vivante qui veut toucher notre cœur. Acceptes-tu ce matin que le Seigneur utilise l'ustensile de sa parole pour partager âme, esprit, jointure et moelle, pour juger les fondements de tes sentiments, de tes propres sentiments? As-tu ce matin, ou veux-tu ce matin, ancrer tes sentiments dans le Dieu vivant? Dieu est-il l'encre de ton âme? Reste-t-il l'encre de ton âme? Amen. Et l'encre, c'est du métal, hein? C'est du métal. Et c'est du métal solide, l'encre de mon âme. Ça veut dire que quelque part, cette dimension de cette encre fait que solidement je suis amarré. Et rien ne peut me faire dévier, ni à droite, ni à gauche, parce que j'ai accepté cette encre de fer. J'ai accepté l'épée de la parole pour scinder ce qui est des sentiments qui lui appartiennent et des sentiments qui ne lui appartiennent pas. Mais ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans vos cœurs. Ce n'est pas à un pasteur de vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est à l'Esprit-Saint de parler à votre cœur, de toucher votre cœur. La seule fonction que nous avons, c'est de partager la parole en vérité. De parler en vérité. Mais en aucun cas de juger, car seul le Seigneur interpelle, seul l'Esprit-Saint interpelle les cœurs, pour toucher les cœurs, pour leur donner un rendez-vous intime, dans l'intimité. Je veux croiser ton regard ce matin et t'exposer ma parole. Tes sentiments sont-ils partagés avec les désirs de la chair, les plaisirs éphémères qui t'ont distrait de l'amour véritable? Le véritable amour, mes amis, et je m'adresse à vous, et je m'adresse particulièrement à mes jeunes amis ce matin. C'est un message à mes jeunes amis. Non pas que les adultes plus âgés ou plus avancés dans l'âge n'auraient pas besoin de l'entendre, mais c'est important que vous l'entendiez. C'est de vous laisser embrasser par l'amour de Dieu. Laisse-toi embrasser par l'amour de Dieu. Amen. Au fond, notre vie devient monotone, triste, inefficace, dans la confusion, lorsque nous ne nous laissons pas embrasser par l'amour de Dieu. C'est parce qu'on s'ennuie que l'on se distrait et que l'on veut goûter au plaisir de la chair. Oui ? Oui ? On est rentré dans un monde de divertissement aujourd'hui, loin d'être dans le plaisir d'être en relation avec Dieu. Mais si tu veux que ton amour soit renouvelé pour l'autre, pour ton prochain, pour celui qui est à tes côtés, il faut que tu te laisses embrasser par l'amour de Dieu. Parce que cela rend l'amour durable. Si tu veux goûter au plaisir de la chair, l'amour sera éphémère. Mais si tu veux goûter à l'amour véritable, laisse-toi embrasser par l'amour de Dieu. C'est vrai ? Laisse-toi embrasser par l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Il n'y a pas de plus grand amour qui n'existe sur cette terre, qui nous a été donné par Jésus, mort à la croix pour nous racheter. Et le Seigneur veut aiguiser le fer afin de transformer ta personnalité, afin que ta personnalité doucement comprenne celui qui t'aime. Amen. Cette première partie, ce premier message était donc pour vous. Le deuxième l'est pour nos assemblées, mais l'est aussi pour nous. Amen. Je vous invite à écouter cette deuxième partie. Où en sommes-nous dans la communion fraternelle ? Me suis-je bien fait comprendre ? Où en sommes-nous dans la communion fraternelle ? Où en sommes-nous dans nos projets en devenir ? Je me fais comprendre ? Parce qu'on oublie les messages. Là, cette fois-ci, je fais en sorte que l'on n'oublie pas. Parce que la rentrée de septembre arrive. Donc si on ronronne à nouveau en septembre, on va ronronner, mais nos couteaux seront inefficaces. Nous manquerons de tranchant dans notre vie, d'efficacité dans notre vie. Parce qu'il n'y a pas plus grande efficacité que de nous unir. Pasteur Olivier, je m'adresse à toi, mais je m'adresse à tous mes frères et sœurs, et je m'adresse à toute l'Église ici, à toute l'Assemblée. Le Seigneur nous interpelle dans l'urgence de nous unir. Et je le dis de la part de Jésus, après avoir longuement médité au cours de la semaine. J'ai soumis ce message au pasteur Christian hier soir. Il m'a dit, tu es dans la vérité, mon frère. Donc il ne s'agit pas de regarder à droite et à gauche qui va me suivre. Le Seigneur nous dit, me suis, moi. Ne regarde pas qui va te suivre, mais toi, suis-moi. Vous comprenez ? Quand Jésus appelle, il t'appelle. Il t'appelle, Thomas. Il ne te demande pas, est-ce qu'elle va me suivre ? Non, suis-le. Quand Jésus me donne un appel, je ne demande pas à mon épouse si elle est d'accord ou pas. Je le suis, Jésus. D'accord ? Je lui donne des explications, c'est évident. Je vais lui faire comprendre, mais je vais suivre le Seigneur. Et Sabine le sait. Quand le Seigneur appelle, ben je peux vous dire que ça secoue à l'intérieur de moi-même. Et si je ne fais pas sa volonté, il me dit « Paresseux, que fais-tu dans ton canapé ? Tu vois bien qu'il y a des frères et des sœurs qui t'attendent, qui sont en souffrance. Pourquoi restes-tu chez toi, isolé ? Lève-toi, dépêche-toi, paresseux. Entre dans mon service. » C'est ainsi que le Seigneur parle à mon cœur. Hein. Tu te fais pas secouer de temps en temps par le Seigneur ? Si. Hein. Le Seigneur nous secoue. Le fer aiguise le fer. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. En frottant deux lames de fer l'une contre l'autre, toutes deux deviendront tranchantes et pourront couper efficacement. La parole de Dieu est une épée. Et cette exhortation qui touche à l'affûtage, à l'aiguisage de l'épée de la parole, touche à notre vie, mais aussi à notre vie d'église. Amen. Cela nous renvoie à ce texte de Hébreux 10, 24, aiguiser le fer contre le fer. Cela veut dire, en d'autres termes, que nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Aiguiser le fer contre le fer, c'est nous exciter à la charité. Vous comprenez ? Nous exciter à l'amour. Le fer s'aiguise par le fer et un homme ranime le visage de son ami. Quand tu es impliqué dans ton engagement pour aimer ton prochain, tu ranimes la flamme dans le cœur de ton assemblée. Vous comprenez ? Et nous avons besoin de nous exciter dans la charité. C'est une exhortation prophétique. Nous avons besoin mutuellement de nous exciter dans la charité. Il ne s'agit pas de choisir son confort, mais il est temps, il est urgent de se préoccuper de son prochain, du salut de son prochain, de l'encouragement que l'on donne au prochain. Et le Seigneur nous invite à persévérer dans l'amour fraternel et à prendre position pour aiguiser le fer contre le fer, afin de rendre efficace également la diffusion de sa parole. Le temps de Dieu n'est plus de marcher dorénavant côte à côte, mais bien de former un même corps. Si l'homme et la femme marchaient parallèlement côte à côte, ils ne seraient pas sur le même chemin. D'accord ? Ils auraient leurs propres activités. Mais ce n'est pas se rencontrer dans une même unité. Dieu ne veut pas que tu marches parallèlement, mais que tu marches d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée. Nous sommes rue des Rémouleurs pour être le centre biblique qui témoigne de l'efficacité de la parole. Mais si nous sommes isolés les uns des autres, nous ne pourrons pas accomplir notre mission. Cette mission sera juste inefficace. Vous savez, David était poursuivi par Saül et Jonathan est allé le trouver pour fortifier sa confiance en Dieu. Notre rôle est de fortifier la confiance en Dieu en chacun d'entre nous. Nous avons cette mission de fortifier notre confiance en Dieu les uns et les autres. Aiguiser le fer par le fer, c'est une manière d'accomplir la loi de Jésus. L'apôtre Paul a dit que nous devons porter les fardeaux quotidiens les uns des autres, pleurer sur notre péché, nous conseiller les uns et les autres sur comment ou mieux nous en repentir. C'était vraiment le sens du message de ce matin. Vous avez noté ? Nous réjouir de toute victoire. Et c'est la même règle que nous avons dans Jacques, chapitre 2, verset 8, qui nous exhorte à nous aimer les uns et les autres. Et pour revenir à l'analogie du fer qui aiguise le fer, un couteau non aiguisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, reste un couteau. Mais il n'a plus la fonction de couper. Alors vous pouvez rester deux assemblées, d'accord ? Vous pouvez décider de ne pas mutualiser. Vous pouvez décider finalement de faire son chemin, mais vous serez inefficace. Et l'Église sombrera. C'est la mauvaise nouvelle que je vous donne. Mais si vous décidez de vous unir, d'être d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, et d'être sur le chemin d'un amour partagé, mutuel, de nous exciter à la charité, nous allons produire du fruit. Et il y aura beaucoup, 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 beaucoup de fruits. Le fruit, c'est dans l'amour. Et quand il n'y a pas d'amour, c'est la discorde. Mais il n'y a pas de fruit. D'accord ? L'arbre est sec. L'arbre devient inutile. L'arbre est inutile et il devient bon à être brûlé. Mais ce que te demande le Seigneur, c'est de suivre. C'est de le suivre et c'est de dire « Seigneur, je te suis pour aimer mon prochain et pour rentrer dans tes plans, déguiser le fer contre le fer afin de ranimer l'âme, le cœur de mon ami. » Amen. Ça, c'est le projet de Dieu. Est-ce que vous êtes décidé à vous aimer ? Oui. Plus loin encore. Il ne suffit pas d'aimer de loin. Tu sais, je peux dire « Sabine, je t'aime, chérie. » Puis faire mon chemin. Sabine, je te fais un bisou. Oui, mais ne pas rendre service, ne pas faire les bons petits plats, ne pas s'occuper, se préoccuper d'elle. Alors, je fais des bons petits plats, vous avez noté que... Mais c'est important, les bons petits plats, hein, chérie. D'être attendu le soir, d'être aimé, d'être prévenant, de dire à ses amis, je rentre plutôt parce que je veux accueillir Sabine quand elle arrive. L'Église, elle doit être prévenante. Le corps de Christ doit être prévenant les uns envers les autres. Ça sert à rien de dire, ma sœur, je te fais un bisou, tu m'as manqué. Ça sert à rien, c'est de la parole. Parole, parole. Mais de me préoccuper, de te téléphoner. C'est vrai que tu étais loin. Mais voilà, heureusement qu'Olivier avait rendez-vous avec toi. Et parfois, ce n'était pas facile. Mais tu lui as manqué. Ça, c'est vrai. Donc, ne nous aimons pas de loin. Vous comprenez? Aimons-nous en vérité. Ne nous aimons pas de loin. Est-ce que ça parle? Oui? Parce que si le prophète parle et puis que ça reste de l'être morte, bah c'est tout, ça serait un arbre sec. Hein. Mais si quelque part je suis interpellé, secoué dans mon âme, touché dans mon âme, et que cela impacte mon cœur et ma vie en disant « Seigneur, je veux me laisser exposer par ton épée à double tranchant pour couper, séparer les sentiments de mon cœur qui ne sont pas purs, afin d'entrer dans la dimension dans laquelle tu m'appelles. » Amen. Tout prend sens. Merci pour ta parole, Seigneur. La communion fraternelle dans l'Église moderne est trop souvent centrée sur le divertissement. Mais la véritable agapé, et nous allons vivre une agapé, c'est de nous retrouver pour communier ensemble et véritablement ensemble. Ce n'est pas de nous divertir, nous allons nous retrouver ensemble pour communier ensemble. Amen, pour partager ensemble. Non pas un bon repas, parce qu'un bon repas sera fait et chacun se sera préparé, mais parce que je veux rencontrer mon prochain et je veux lui témoigner mon amour. D'accord? Vous comprenez? Voulez-vous que le monde se convertisse? Le monde ne se convertira que s'il voit notre unité de cœur, d'esprit et d'âme. S'il voit, je dirais que dans notre foyer, nous nous aimons, alors les gens se disent « Waouh, c'est l'amour de Dieu qui est ici présent. » Amen. Si les gens se déchirent entre eux, se disputent constamment, il n'y a pas de fruit. Le fruit vient du cœur et de l'unité du cœur, de nous aimer l'un et l'autre. Alors vous dites, vous connaissez ce message. Oui, je sais que vous connaissez ce message, mais mettez-le en pratique, mettons-le en pratique. Le corps de Christ, il est invité à mettre en pratique par l'unité. Waouh ! Aimons-nous. Il n'y a pas d'un côté, je dirais, des membres qui seraient différents des autres. Parce que si vous êtes différents et que vous n'êtes pas ensemble, vous ne servez à rien. Vous n'êtes utile que lorsque vous décidez d'associer vos différences. Amen. Père, je te prie tout simplement pour que ce message touche nos cœurs et nous rencontre les uns et les autres. Seigneur, tu fais que mes frères et sœurs retiennent seulement ce qui vient de toi et ce qui a été ajouté, qui n'est pas de toi. Je te prie, Père, de leur effacer cela de la mémoire, mais qu'ils retiennent ce qui est bon, car tu nous invites à retenir ce qui est bon. Et ce que toi, tu désires, Seigneur, dans ton projet, c'est que nous reflétions l'Église de Jésus-Christ, amoureuse de ta parole, amoureuse de ta personne, et que nous reflétions dans nos vies la réalité de ce que tu es en nous. Seigneur, que nous puissions mettre ce désir dans notre cœur de nous compléter et d'enrichir ce qui est riche chez l'un, riche chez l'autre, et de le mettre en commun, afin de refléter véritablement l'amour de Christ dans l'Église. Amen. Dans cette ville, ailleurs de cette ville, dans le monde, et que plusieurs soient gagnés à l'amour de Christ. Amen.